Entre vous et nous,
l'émission pour bien vivre au quotidien.
Et comme tous les lundis, notre émission de service, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Genedis, Ascalcim Shakiri, responsable vente télécom B2B de Genedis. Bonjour.
Bonjour.
Et à tes côtés, nous avons Anna Tedesco, qui est directrice wellness au Bain de la Vais. Bonjour.
Bonjour Caroline.
Avec toi, Ascalcim, on va s'intéresser aux données qui circulent sur Internet, mais je crois que tu voulais démarrer par quelques questions.
Exactement, j'avais une question à vous poser, elle est très simple. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé en fait, comment Internet arrive chez vous ? Alors, chez vous, dans vos locaux ou au niveau professionnel ou résidentiel ?
Ben, grâce à la fibre optique.
Oui, c'est
entre
ça.
Entre autres.
Oui, c'est pas mal.
Et
c'est
les antennes ?
Et les antennes aussi, exactement.
Voilà, puis le monsieur qui est venu installer tout ça.
Et le monsieur qui est venu installer tout
on
ça.
On l'a oublié, lui.
Et s'il vient chez nous, c'est mieux. C'est exactement ça. Donc, on appuie en fait sur un bouton la plupart du temps, ça marche. Mais derrière, il y a un voyage qui se déclenche. C'est un voyage qui est à la vitesse de la lumière et c'est littéralement le cas. Tout commence en fait dans des centres de données. C'est d'immenses bâtiments qui sont soit en Suisse, soit à l'étranger.
Souvent, excuse-moi, là, je te coupe, mais comme il y a beaucoup de craintes actuellement en se disant, ouais, ça vient des États-Unis, s'il y a quoi que ce soit, ce qui se passe, et puis qu'ils arrachent tous les câbles qui sont au fond de la mer, on n'aura plus de données et puis ça va être, Internet va être out. Il y a une sorte de crainte. Tu sais.
Oui, oui, bah c'est une crainte qui est assez fondée parce que les données, elles sont hébergées soit de l'autre côté du monde, aux États-Unis ou bien dans des centres de données qui sont ailleurs, en Inde, en Chine, ou alors elles sont aussi localement hébergées chez nous,
en
Suisse. Même en Suisse, il y a pas mal de centres de données qui sont même conséquents. La Suisse est aimée pour ça parce que il y a une notion de stabilité et puis de sécurité aussi. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui font le choix de mettre leurs données et les applications directement en Suisse.
Ok. Mais c'est où, n'importe où en Suisse ou c'est typiquement au Tessin, là où il y avait le grand centre de l'époque ?
Il y en a un peu partout.
Ok.
Il y a quelques centres de données qui sont, il y en a même en Suisse romande passablement. Il faut différencier deux types de centres de données. Il y a les tout gros centres de données qui eux sont vraiment, il y en a 4-5 en Suisse, et puis il y a plein de petits centres de données qui sont un peu partout sur le territoire où là, ben, on héberge localement, on dira.
D'accord. Mais un centre de données, en fait, c'est quoi ? C'est qui gère ?
C'est un grand bâtiment. Dans ce bâtiment, il y a plein de racks. Un rack, c'est un élément où, dans cet élément, vous mettez des serveurs ou alors des éléments informatiques qui vont simplement stocker ces données-là. Et puis, ce bâtiment-là, il est connecté par beaucoup d'entreprises différentes pour amener et renvoyer en fait, les données et le signal qui transite par ces fibres, justement. Et ce bâtiment-là, généralement, il est sécurisé et puis il permet... qu'Internet existe aujourd'hui, en fait, au final.
D'accord. J'arrête de t'interrompre.
Pas de souci. C'est avec plaisir. Donc, ces centres de données, ils sont, comme je le disais, en Suisse ou bien à l'étranger. Et puis, c'est là où tout est stocké. Donc, que ce soit les applications comme Netflix, YouTube, l'e-banking, à peu près tout qu'on utilise aujourd'hui, en fait, c'est à ces endroits-là qui sont... les données sont présentes à cet endroit-là. À partir de là, les données, en fait, elles voyagent à la vitesse de la lumière dans de la fibre optique. Et puis, cette fibre optique traverse... les océans, les montagnes, un peu partout, et puis c'est ce qui interconnecte les choses. Deuxième petite question, est-ce que vous savez ce que c'est la fibre optique, concrètement ?
C'est une sorte de câble qui est mis dans les océans et ailleurs, et puis j'en sais pas plus.
Alors c'est un
toi,
câble.
Anna ? C'est vrai que j'imagine, mais qu'est-ce que ça donne derrière ? Non, parce que c'est, on se dit, c'est un câble, c'est des choses qui sont cachées, ouais. Ça passe par le ciel, par le sol, le sel, on ne sait
pas. On sait pas. Donc, puis c'est tout fin ou c'est tout gros ?
Alors justement, l'avantage de la fibre optique, en fait, c'est que c'est un fil de verre qui est tendu et c'est plus fin qu'un cheveu.
Wow.
Et puis ce fil de verre-là, il passe donc dans un câble qui est du plus large, qui est blindé, qui a de la sécurité autour pour éviter qu'il soit cassé ou rompu. Et puis, la chose qui est intéressante avec cette fibre optique, c'est que ça peut transporter des données. Et il faut vous dire que sur un seul de ces fils, on peut faire passer l'équivalent de 250 DVD par seconde. Donc la
conséquence
de DVD, oui. De films, de DVD.
Ah ok, je pensais que c'était un truc
Division c'est imagé. Non, imagé, c'était juste okay. pour avoir une image, pour dire que finalement dans un brin de fibre optique, on fait passer autant que dans une armoire de lecteurs DVD qu'on avait à l'époque.
C'est impressionnant.
Ce qui est plus fascinant avec ces câbles-là de fibre optique, c'est que ça fonctionne par réflexion de la lumière. Donc c'est comme si vous aviez en fait la lumière qui était coincée dans ce brin-là et puis qui rebondit partout à l'intérieur et qui va d'un point A à un point B. Et comme c'est de la lumière, ça va vite. Et puis il n'y a pas de friction dans le câble, donc il n'y a pas de perte. Et c'est grâce à ça qu'on arrive à avoir des grandes quantités de données qui traversent des grandes distances sans devoir, en fait, entre deux, ou dans certains cas de figure, renvoyer du signal pour que ça arrive au bout.
C'est impressionnant quand même.
Hein, on est d'accord que souvent, c'est dans les villes comme actuellement chez nous, ils les mettent par réseau, par endroit, et d'un coup, on aura partout cette fibre optique dans une ville ou dans un bâtiment. Je crois que c'est différent par rapport aux bâtiments et les villes. Hein.
C'est exactement ça. Il y a différentes technologies qui sont, niveaux de technologie, on dira. On a ce qu'il y a aujourd'hui, la plupart du temps, c'est du FTTB. Donc ça veut dire que la fibre, elle arrive jusqu'au bâtiment. Et puis, à partir de là, il y a une colonne qui est créée pour monter dans les appartements ou dans les entreprises. Et puis, à partir de là, ça s'appelle de la FTTH. H pour home et B pour bâtiment.
Ok, hyper et intéressant.
En amont de ça, la fibre, elle est amenée dans le quartier ou dans la ville. Et puis après, en fait, ça va par palier. Il faut vous dire qu'au départ, on a amené ça dans les villes. Mmh. Ensuite, on a amené ça dans les quartiers. Ensuite, dans les bâtiments. Et maintenant, dans les appartements ou dans les entreprises.
Et pourquoi certaines régions sont hyper bien desservies et d'autres, c'est la cata?
Alors, c'est la problématique, c'est que c'est laissé au bon vouloir de l'entreprise qui gère le réseau sur place. On dira ça de cette manière-là. Si on prend l'exemple du Chablais, le Chablais, c'est très bien dépourvu en fibre optique parce que il y a une entreprise locale, pour pas la citer Genedis, qui s'est chargée de déployer le réseau de fibre optique parce que c'est une technologie sur laquelle on a beaucoup investi dès le départ.
D'accord.
Et puis, il y a d'autres endroits au niveau de la Suisse où il y a eu peut-être des conflits d'intérêts à certains moments, il y a eu peut-être des choix technologiques, des choix même politiques qui ont fait que ça s'est moins développé. Ce qui est sûr, c'est qu'on tend à ce qu'il y ait 100% du territoire suisse qui soit couvert par la fibre optique, et ça c'est une obligation pour que la technologie elle continue à fonctionner en fait au final.
Bon à savoir.
Et après, puis maintenant, la question c'est qu'est-ce qu'on en fait de cette fibre ? Donc cette fibre, comme on l'a expliqué un petit peu avant, elle arrive donc dans les réseaux locaux, donc dans nos agglomérations, dans notre région, et puis elle est gérée par des opérateurs comme Genedis qui s'occupent de déployer cette fibre dans les bâtiments et puis les appartements ou les entreprises. Et puis, en fait, c'est ça qui garantit que tout se passe en une fraction de seconde et puis que chaque message ou chaque vidéo qui est voulu être visionné, c'est du tac au tac. Parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que une connexion Internet, ce n'est pas que la vitesse en elle-même, c'est trois autres critères qui sont intéressants pour les entreprises ou les particuliers. C'est la latence. La latence, c'est le fait de demander quelque chose et puis de l'obtenir. Il faut vous dire que quand vous cliquez sur une vidéo sur YouTube, l'information doit aller jusqu'au centre de données qui est stocké, lui, on ne sait où, donc dans ces bâtiments que j'expliquais au départ, et ensuite elle doit revenir chez vous. Donc si vous avez une technologie qui est lente entre deux, faut vous dire qu'au moment où vous appuyez sur le bouton, on va attendre un moment, puis ça va revenir plus tard. Et on a peut-être déjà fini le café et on n'a pas vu la vidéo.
Puis les gens s'énervent parce qu'on a tellement l'habitude d'avoir tout de suite.
Exactement.
C'est souvent la différence entre la maison et le professionnel des fois.
C'est ça.
C'est comme si ralenti la maison et on pense qu'au niveau professionnel, ça va très très vite parce que c'est fait, fabriqué différemment.
C'est exactement ça. Et puis c'est aussi le segment qui est différent au niveau professionnel entreprise, c'est qu'en entreprise, on va avoir des choses qui sont pas que des loisirs. Non, je l'espère en tout cas. On aura souvent aussi la téléphonie par exemple qui passe aussi par maintenant Internet. Et si on n'avait pas la fibre optique ou bien ces technologies qui sont plus rapides que ce qu'on avait par le passé, on ne pourrait pas mettre en place ces types de solutions-là. Il faut vous dire que cette latence, si on en a trop, quand vous parlez, la personne elle vous entend plus tard, elle vous a déjà répondu ou vous demandez qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu ne me parles pas, puis en fait on ne se comprend pas. Mm-hmm. Et c'est pour ça que c'est important. Question suivante, c'est un quiz aujourd'hui, on dirait.
Ah ouais, j'ai cru comprendre.
Est-ce que il vous est déjà arrivé d'avoir une coupure d'internet au mauvais moment ?
Ah, mais tellement, tellement,
oh oui.
Et ça, malheureusement, c'est ce qu'on ressent le plus. En fait, la particularité, c'est que c'est frustrant d'être coupé sur Internet, quoi qu'on fasse. Mais pour une entreprise, c'est pas que frustrant, parce que pour une entreprise, ça chiffre directement en argent. Parce que du moment où il n'y a plus de connexion Internet, c'est problématique, parce que certaines fois, une activité s'arrête.
Et tu peux perdre des données, il y a des gens qui ne peuvent pas bosser.
Exactement, puis avoir des gens qui sont... on sait tous qu'aujourd'hui, tout passe par Internet presque. Souvent, nos applications, comme on l'a dit un peu plus tôt, elles sont stockées ailleurs et puis on va à chaque fois les interroger. Donc, on ne peut plus rien faire. Et c'est là où ce qui est intéressant, c'est que quand on part sur des modèles qui sont plutôt pour les entreprises, on va avoir autant la latence qui sera meilleure, autant la symétrie du débit, c'est-à-dire que vous allez avoir autant que vous envoyez que vous recevez. Ça, c'est important pour pouvoir justement accéder à ces centres de données ou bien, par exemple, à envoyer des informations vous-même sur Internet. Et il y a un troisième axe, qui est un axe qui est super important, c'est ce qu'on appelle la garantie du temps de rétablissement. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous dit quelque chose?
Non.
Sachant combien de temps, si ça va se rétablir d'ici une minute, ou deux, ou trois, ou 10 minutes. 10 minutes, c'est la catastrophe.
Exactement. Donc, ce laps-là, ce temps-là, c'est en combien de temps on vous garantit que votre problématique existante, elle soit résolue.
Donc ça, une promesse faite par l'entreprise.
C'est une promesse qui est faite par l'entreprise, oui. Quand vous contractez un service qui est à destination d'une entreprise, vous n'allez pas avoir le même niveau de garantie que si vous êtes un client résidentiel. Dans ce cas de figure, il y a aussi tout ce qui est l'aspect local qui est important, parce que c'est sûr que si vous avez des équipes qui sont sur le territoire local, donc dans le Chablais, ils vont avoir un taux de réaction qui est plus rapide. S'il y a un service client qui est dans le Chablais, il va connaître le tissu plus facilement et il va pouvoir répondre plus facilement à ces demandes-là. Et c'est là où c'est important de travailler avec des entreprises de la région, parce que ces entreprises de la région, elles ont non seulement les capacités technologiques parce qu'elles sont présentes dans la région, puis elles ont aussi le facteur humain qui, lui, est dans la région. Et du coup, c'est intéressant d'aller sur des modèles qui sont ceux-ci. Et moi, je dis tout le temps, au final, quand tout va bien, personne ne le remarque.
Mais quand tout va mal...
Et c'est quand on a besoin de support, en fait, que c'est là qu'on remarque la différence entre un accès qui est géré par une entreprise locale, c'est différent qu'un accès qui serait géré par des entreprises qui sont
entreprise.
Un peu moins locales.
Ouais. On entend bien le message. Restons local. Nous étions avec Skalsim Chakiri, responsable vente télécom B2B pour Genedis. Merci pour ce quiz.
Merci à vous.